7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM.
Elle vient de sortir son deuxième roman, il s'appelle Ne t'éteins pas, il est sorti chez J'ai lu et nous sommes ce matin en ligne avec Sophie Di Paolo Antonio, bonjour.
Bonjour Damien, merci de me recevoir sur votre antenne,
merci.
Ravie d'être avec vous.
Merci à vous d'être avec nous en ce lundi matin. Écrivaine montluçonnaise, donc évidemment même si vous ne vivez plus à Montluçon, vous y avez encore vos racines, on va en parler puisque vous serez notamment en dédicace au magasin Cultura ce samedi après-midi, on vous donnera tous les détails dans un instant pour parler donc de ce second roman, mais déjà je voulais revenir avec vous sur la genèse finalement, sur ce parcours d'écrivaine qui est finalement tout récent, que vous avez démarré avec un premier roman qui s'appelait Les Choix de Clara, c'était en 2016, hein, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça, oui. Les Choix de Clara qui est sorti en 2016.
Alors racontez-nous un petit peu comment vous en êtes venu à écrire finalement, avec en plus quelque chose d'assez atypique hein, quand on écrit, puisque vous êtes dyslexique et dysphasique. Expliquez-nous.
Oui, alors tout à fait. Moi, la littérature, c'est quelque chose qui est nouveau dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai fui tout le temps, puisque j'étais un mauvais élève à l'école, j'étais dyslexique, diphasique, j'ai un parcours très chaotique. J'ai réussi à aller jusqu'à mon bac plus 2 assez péniblement et difficilement. Et j'ai découvert la lecture à l'âge de 30 ans. Une amie m'a offert un livre et voilà, je me suis mis à lire difficilement, parce que je lis toujours difficilement, très lentement. Et puis un jour, sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas y arriver, pourquoi ne pas essayer d'écrire. Donc je me suis lancée dans l'écriture et j'ai réussi à écrire ce premier roman en 6 mois. Je l'ai écrit tous les matins dans le métro en allant travailler et effectivement je l'ai écrit phonétiquement, il y avait une faute par mot à peu près, donc après il a fallu le traduire en français, en bon français, et voilà, il a été présenté à la maison d'édition qui a eu un coup de cœur et qui l'a retenu, donc c'était vraiment une belle surprise pour moi et une grande découverte parce que j'imaginais pas ça possible en fait.
Ouais, bien sûr, parce que à la base c'est un handicap, hein, clairement, et vous en avez fait presque une force finalement.
Exactement, c'est un vrai handicap, notamment dans la vie professionnelle, parce que c'est difficile pour moi de faire un mail sans faute, un mail professionnel. Donc parfois on se retrouve dans des situations un peu cocasses où on paraît pas très crédible de ne pas savoir écrire, d'écrire sans faute. Même si aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus compris, plus pris en compte, plus écouté, ça reste quand même un handicap. Je n'arrive même pas à faire une simple carte de Noël, une carte de vœux. Elles partent tous avec une vingaine de fautes dedans. Pourtant, je pense qu'il n'y en a plus. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un tout le temps en permanence pour relire mes fautes, je suis incapable de faire quelque chose sans une faute.
Mmh. C'est aussi c'est aussi un message d'espoir pour tous ceux qui ont cette problématique là. Hein.
Oui, c'est vrai que ça donne d'espoir que même si on a des handicaps, on peut aller là où on ne nous attend pas, on peut surprendre et c'est une belle revanche sur la vie, tout à fait.
Alors, Les Choix de Clara, donc sorti en 2016 chez Flammarion, puis l'année d'après chez J'ai lu. Racontez-nous un petit peu, donc c'était une première expérience pour vous, comment tout cela a été vécu, et je crois qu'il y a eu quand même un beau succès, en tout cas des très bons retours. Hein.
Il y a eu des très bons retours, c'était une belle surprise et un beau succès. J'ai eu du mal à le croire, à imaginer, j'ai eu du mal à en parler autour de moi. J'ai commencé à vraiment en parler autour de moi quand j'ai signé le contrat, parce qu'au début, je pensais pas que ça allait sortir. Et en fait, la révélation pour moi, ça s'est fait quand j'ai lu mon premier article sur moi dans la montagne, parce qu'effectivement, comme je viens d'Auvergne, j'ai grandi à Montluçon et à Clermont. Ce journal, je l'ai toujours eu sous le coude petit, je ne l'ai jamais lu vraiment parce que je ne l'étais quasiment pas, mais ce journal, j'ai épluché les patates dessus, j'ai fait la peinture dessus, j'ai déménagé avec. Et le jour où j'ai vu un article de moi en pleine page, un encadré dans la première couverture, je me suis dit waouh, j'ai réussi à faire ça. Donc c'était un vrai succès pour moi et c'est là où j'ai compris ce que j'avais réussi à faire. Donc c'est la première fois où j'ai été fière de ce que j'avais fait.
Ouais, donc c'est un livre sorti il y a quelques années et qui vous a du coup donné envie de continuer hein, finalement.
Oui, parce qu'on est vite pris par l'écriture. L'écriture, c'est une façon de sortir ce qu'on a en fond de soi, qu'on n'arrive pas forcément à dire. Ce qui peut être positif en soi ou négatif, hein, dans les deux sens, nos peines et nos joies. Donc on se fait vite taper par l'écriture et ça vient vite addictif, en fait. Donc, écrire, ça fait du bien.
Alors, Ne t'éteins pas, c'est donc le nom de ce second roman que vous viendrez dédicacer, on le rappelle, samedi prochain, ce samedi, la Cultura à Montluçon. C'est un livre un petit peu particulier qui est peut-être un livre thérapie vis-à-vis d'une situation que vous avez vécue de près, en tout cas. Ce sont les attentats de novembre 2015 à Paris. Expliquez-nous la genèse de ce livre-là.
Exactement, Ne t'éteins pas, c'est une véritable thérapie. Je l'ai écrit parce que à ce moment-là, je n'allais pas très bien. On a vécu ces événements, on était en plein cœur, ça s'est passé au coin de ma rue. Voilà, c'était un traumatisme. D'autres événements cette année-là ont fait que je n'allais pas bien. Donc cette histoire, c'est une fiction, mais elle m'a vraiment permis de sortir tout ce que j'avais sur moi parce que je n'avais pas envie d'oublier ce qu'on a vécu, mais j'avais envie d'apprendre à le gérer. J'avais envie de pouvoir parler de mes émotions. Sans être submergée par mes émotions, pouvoir parler de ce qui s'est passé sans avoir des excès de colère, de tristesse, des envies de pleurer, apprendre à maîtriser tout ça. Et effectivement, l'écriture, ça permet ça. Donc, j'ai beaucoup pleuré en l'écrivant. Et à la fin de l'écriture, je me suis dit, voilà, je vais mieux, j'en ai marre de pleurer, il faut que je mette le point final, il faut que je finisse, tout est sorti. Donc, ce livre, il est très poignant, il est très beau, c'est une très belle fiction. On a vraiment des beaux retours sur le roman, ce qui fait énormément plaisir, parce qu'il est très sincère, il est écrit avec le cœur. Ça reste une fiction, hein, c'est pas la réalité, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est une histoire, mais on est vraiment dedans. Les personnages paraissent vraiment réels, ils vivent, on vit la chose avec Angèle, on apprend à se reconstituer avec Angèle, et c'est aussi un beau message d'espoir.
Angèle, donc c'est l'héroïne entre guillemets de ce roman. Racontez-nous un petit peu le pitch finalement.
Alors Angèle, c'est une jeune fille qui fait des études de droit à Paris et elle a une vie très très prenante avec ses études et sa meilleure amie Amélie. Elle décide un soir de se faire un petit cancer pour sortir, pour se changer les idées. Elles vont à un concert et là elle se fait draguer par un jeune homme qui s'appelle Rémi, qui lui ressemble pas du tout. Il est un peu voyou, il a une allure un peu à voyou avec son Marcel, et donc elle le renvoie un peu sur les roses en lui disant qu'il ne l'intéresse pas. Et à ce moment-là, il y a plusieurs hommes qui rentrent dans la salle et qui tirent sur tout le monde. Il se passe un attentat. Et donc ce jeune homme, au lieu de s'enfuir, il prend Angèle, il l'aide à se cacher, à se protéger. Donc là, il va y avoir une explosion, tout explose. Et ils vont être en vie, ils vont survivre. Mais ils vont devoir attendre les secours. Et donc, pour attendre les secours, ils vont devoir beaucoup se parler pour se maintenir en vie, apprendre à se connaître. Elle finit par sombrer et à son réveil, il a disparu. Donc, est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'elle l'a inventé? Est-ce que c'est un personnage inventé pour survivre? Voilà, toute une intrigue autour de ça. Et donc, ce message d'espoir de se reconstruire donc, quand on vit l'impensable.
Ouais, à découvrir donc la suite dans Ne t'éteins pas chez J'ai lu que vous viendrez dédicacer à Cultura à Montluçon. Vous le disiez, ces événements du 13 novembre 2015, alors on rappelle que vous êtes montluçonnaise, vous habitiez à ce moment-là à Paris, ça vous a vraiment traumatisé parce que vous l'avez vécu pas de l'intérieur, vous étiez pas au Bataclan, vous étiez pas forcément aux terrasses des cafés, mais des proches et vous-même étiez assez proche de ces lieux-là finalement.
Oui, c'est ça. Ben, mon mari les a croisés puisque lui rentrait et on habitait à côté du petit Cambodge, la Belle Époque, tous ces bars qui ont été pris pour cible. Donc lui, il a été témoin de tout ça. Donc d'ailleurs, dans le livre, dans les 6 premières pages, on raconte un peu notre histoire. Enfin, je raconte un peu notre histoire et ce que nous, on a vécu, donc qui est différent finalement. Voilà, lui, quand il les a croisés, il était à ce moment-là sous un échafaudage, ça tirait juste derrière lui. Donc nous on a assisté aux scènes de nos balcons au final, mais donc oui, ça reste un gros traumatisme et c'est aussi la raison pour laquelle on a quitté aujourd'hui Paris pour s'exiler à Bordeaux. Donc on a fait l'Auvergne, la région parisienne, et maintenant on découvre la Gironde.
Et de retour régulièrement dans le bassin montluçonnais, notamment avec ses dédicaces. Cette dédicace, ça sera l'après-midi à Cultura ce samedi, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Je retourne régulièrement à Montluçon parce que j'ai encore mes amis, ma famille. Donc Montluçon et Clermont sont mes villes de cœur d'enfance. Donc je reviens très régulièrement.
On voulait vous parler en tout cas ce matin, et on en avait déjà parlé à l'issue du premier roman, de cette auteure montluçonnaise, donc Sophie Di Paolo Antonio, ce deuxième ouvrage qui s'appelle Ne t'éteins pas chez J'ai lu, ça vient de sortir il y a quelques semaines, et en plus il y a ce beau message d'espoir autour de la dyslexie. Je crois que vous faites d'ailleurs des interventions dans les établissements scolaires hein, autour de la dyslexie peut-être.
Exactement, j'en avais fait plusieurs pour les choix de Clara, j'avais fait 3 conférences autour de la dyslexie et là j'en ai 2 autres de programmées, une qui va se faire à Vif-le-Comte dans une école avec une association de 10, enfin tout n'est pas encore organisé et je vais en faire une autre vers Perpignan aussi au mois d'avril. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie faire, pouvoir apporter mon témoignage et prendre des témoignages des autres, parce que voilà, c'est à chaque fois j'ai des beaux récits. Les gens me racontent aussi leur espoir, leur vie avec leur enfant et les difficultés qu'ils ont. Et au jour d'aujourd'hui, je peux témoigner en tant qu'enfant ayant été dyslexique et en tant que maman ayant un enfant dyslexique et TDAH. Donc, c'est une très belle expérience que j'apprécie faire. Et voilà, ça, c'est arrivé avec la sortie des romans. Donc, c'est chouette.
Sophie Di Paolo Antonio, on vous retrouve donc chez Cultura pour cette séance de dédicace de votre deuxième roman ce samedi après-midi. Merci d'avoir été avec nous en ce lundi matin.
Merci à vous de m'avoir reçu.
7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.